Mascorade. Des entretiens proposés par Emmanuel, confiné à Verfeil, sur CFM. Salut, nous sommes le 9 avril et j'appelle Charlotte qui vit au Liban dans une ferme collective. Elle nous fait part de ses inquiétudes et de ses espoirs et nous parle du Liban et de la vie sur la ferme confinée. Aujourd'hui, on est avec Charlotte. Salut Charlotte.
Salut. J'habite au Liban. Je suis dans une ferme qui s'appelle Bouzorona Jouzorona, qui veut dire en français « nos graines sont nos racines ». Et j'habite ici depuis 3 ans maintenant. C'est une ferme maraîchère qui reproduit de la semence, où on propose des formations à des élèves qui soient autant libanais, syriens ou français. Où on essaye de montrer un autre regard sur l'agriculture au Liban, parce que c'est quand même une région qui est très, très intensive depuis quelques années. Voilà. Donc, on a une ferme de 2 hectares.
Vous êtes combien sur cette ferme ?
Alors, il y a une quinzaine de personnes qui travaillent sur la ferme. Autant de femmes que d'hommes. Tout était équilibré, chacun un salaire.
C'est quoi la structure ?
C'est un projet collectif. Donc, la ferme ici, dans notre village où on est, ça a commencé en 2017. Mais le projet, ça fait depuis 2016, je crois, qu'il a été créé. En gros, c'est collectif, mais chaque famille, sa maison, on n'habite pas tous ensemble. C'est juste la ferme qui est collective. Et il y a plusieurs familles qui travaillent. Donc, il y a 4-5 familles qui travaillent sur la ferme. Chacun a sa maison, mais on est tous ensemble sur la ferme. Alors, il y a des Syriens, 9 francophones, dont 2 Libanais, et sinon, le reste, c'est des Syriens.
Et avec les Syriens, tu communiques en quelle langue ?
Ils ne parlent que arabe. Donc, il n'y en a qu'un qui parle un peu anglais, mais de toute façon, je ne parle pas anglais. Donc, c'est que arabe ou français avec les Libanais ou nous.
Donc, tu parles arabe ?
Donc, il faut apprendre l'arabe. Je commence à me débrouiller, ouais. En 3 ans, ça va.
Pourquoi tu as décidé de vivre ici ?
Parce qu'en fait, en 2017, début 2017, j'avais plus rien à faire en France. J'avais pas de projet, pas de... Ouais, j'avais rien à faire. Donc, ma mère, elle avait déjà croisé Ferdi et Zoé qui, eux, ont créé le projet de Graines et Cinéma à la base en France. Et donc, j'ai décidé de venir voir ce que c'était ce projet, juste pour 2 mois, un voyage comme ça. C'est la première fois que je partais toute seule dans un pays. Et finalement, j'ai tellement aimé le projet, les gens ici, que j'ai décidé de venir habiter. Et donc, la première année, j'ai passé 4 mois. Et en début 2018, que j'habite toute l'année ici.
Tu nous as pas dit ton âge, Charlotte ?
J'ai 24 ans.
Donc, tu t'y plais ici ? Tu vas y rester ?
Pour l'instant, je vais y rester, ouais. Je ne me vois pas partir. En tout cas, je ne me vois pas revenir en France. En tout cas, habiter en France. Pour l'instant, j'ai tout ici. Enfin, c'est ma deuxième vie, quoi. Ma nouvelle famille, ma deuxième nouvelle famille au Liban. Entre Syriens, Libanais et Français.
Ce qu'on entendait derrière toi, c'est que vous avez des machines.
Il y avait un mixeur, mais c'est plus loin parce que... Enfin, tu l'entends.
Ouais. C'est pas grave.
Je ne sais pas trop où mettre parce qu'en fait, il y a du bruit partout.
Non, mais c'est pas grave, si je t'entends toi, ça va.
C'est la vie en collectif, quoi.
Ouais, voilà. Alors,
Je suis désolée, Emmanuel. Je vais voir s'il y a un endroit un peu plus loin, mais le problème, c'est que je peux pas trop m'éloigner de la Wi-Fi. Salem, tu as d'accord avec toi, quand même ? Ok, c'est bon, il a fini.
Ok. C'est quoi la situation au Liban par rapport au corona ?
Alors, au Liban... On est confiné depuis à peu près le même temps qu'en France. Ça a commencé un jour avant, je crois. Et du coup, c'est un peu spécial le Liban parce que c'est déjà un pays assez compliqué et dans sa situation en général, avec tous les réfugiés syriens, palestiniens. Toutes les grandes villes, par exemple Beyrouth, en tout cas sur la côte, tous les gens sont complètement confinés et ils ne sortent pas. Enfin, c'est vraiment comme en France, personne ne sort de leur maison, mais c'est plutôt de l'autoconfinement. L'État a demandé que les gens au Liban s'autoconfinent. Ce n'est pas une obligation, mais c'est il faut, quoi. Il n'y a personne dans les villes, il y a très peu de trafic. Mais chez nous, nous, il y a la côte, il y a une chaîne de montagnes qui s'appelle le Mont Liban. Et ensuite, il y a la plaine de la Beka où nous, on habite. Et là, c'est vraiment un autre monde. C'est un peu un autre monde. Il y a des villages où personne ne sort, mais il y a des villages comme chez nous, dans notre village, où tout le monde est dehors, tout le monde a l'impression qu'ils sont invincibles. Du coup, c'est un peu bizarre. T'as envie de leur dire d'arrêter de faire ce qu'ils font, mais en même temps, nous, on n'est pas chez nous. On est des étrangers. Déjà, en ce moment, les étrangers sont mal vus. En tout cas, les Européens sont mal vus parce que ça viendrait de toute façon d'Europe après la Chine. Donc, on n'est pas très bien vus. Donc, ce n'est pas à nous d'aller leur dire de rentrer chez eux parce que, voilà, on n'est pas chez nous. Mais nous, par exemple, dans notre ferme, on a fermé la ferme. Donc, il n'y a personne qui a le droit de rentrer, que les gens qui travaillent dans la ferme. Et on fait tout, on prend toutes les précautions possibles quand on masse des légumes. Avant, on faisait des marchés. Là, ils ont tous été fermés, donc ils n'ont plus de marché. Et on faisait des paniers d'AMAP, sauf qu'on avait un endroit à Beyrouth où les gens venaient récupérer leurs paniers. Sauf que là, ce n'est plus possible parce qu'on ne peut pas faire de regroupement. Donc, on a décidé de faire du delivery. Et on délivre tous les vendredis à Beyrouth 40 paniers. Donc là, aujourd'hui, on a ramassé 40 paniers pour 40 familles. Et là, pour ça, on essaye de prendre le plus de précautions. Donc, on va laver tous les légumes. Nous, les personnes qui ramassent, c'est toujours les mêmes. On se nettoie bien les mains, on fait le plus attention. Et dès qu'on prépare les paniers, on met des masques. On essaye de faire le plus attention possible pour chaque famille. Mais après, c'est elles aussi qui sont responsables de ce qu'elles ont commandé. Donc, c'est elles qui vont devoir laver leurs légumes ensuite chez eux. Mais voilà. En tout cas, c'est notre situation à nous, chez nous. Donc, on continue tout le travail, sauf qu'il n'y a plus personne qui a le droit d'entrer dans la ferme à part nous.
Donc, économiquement, vous n'avez pas d'impact ?
Si, quand même, parce que, par exemple, on avait des formations. Ça, on a, depuis fin 2019, on avait commencé des formations agricoles au sein de la ferme. Et là, on a dû tout arrêter à cause du corona depuis 2 mois. Enfin, ouais, 1 mois et demi, 2 mois. Et donc, il n'y a plus d'élèves qui viennent. Donc, ça, c'est fermé. Donc, ça nous fait arrêter beaucoup d'activités. Économiquement, ça va pour l'instant. Mais on n'a plus de marché. Il y a quand même des choses qui se sont arrêtées par rapport à la vente et tout. Mais il y a quand même plus de gens maintenant qui demandent des semences, parce que vu qu'on est une ferme qui reproduit de la semence et qui vend des semences locales ou pas, mais on essaie de reproduire le plus possible de semences locales. Donc ça, les gens, là, en ce moment, vu qu'ils n'ont plus rien à faire à part jardiner ou cuisiner, ben, ils demandent des légumes et des semences. Toutes les semaines, on prépare beaucoup de semences. Plus, ils ont envie d'arrêter de traiter en chimique. Donc, ils veulent aussi enfin, nous ici on appelle ça dawa, donc médicaments, mais des traitements naturels. Je trouve qu'économiquement on s'en sort pas trop mal parce que les gens ils découvrent qu'en fait c'est super important de jardiner, de manger bio, et dans ces moments-là où t'as plus rien à faire et tu te retrouves à réfléchir plus, quoi.
Donc, tu sens une modification du comportement ?
Ah oui, de fou, ouais. Moi, je trouve que j'ai jamais vu autant de gens qui nous demandaient, par exemple, notre catalogue, qui nous demandaient de savoir ce qu'on a comme plants, comme graines. Enfin, je trouve que c'est la première année où vraiment les gens, ils pensent que c'est vraiment important, quoi. Même s'ils ont un petit balcon chez eux à Beyrouth, même pour faire des choses avec leurs gosses, quoi. Parce qu'il n'y a plus les enfants, ils s'ennuient. Ils sont vite, donc ils cherchent tout ce qui est possible pour les occuper et pour eux aussi. Ils veulent des fleurs, ils veulent des aromatiques, ils veulent des fraises, enfin tout. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment un changement par rapport à ça. Ils ont une envie maintenant de jardiner, alors qu'avant, c'était pas très important pour eux.
Les écoles sont fermées aussi ?
Les écoles, elles sont fermées beaucoup plus depuis bien longtemps. Elles sont fermées depuis, je dirais, 1 mois et demi maintenant. Même avant le confinement, les écoles, elles ont été fermées.
Le système de soins au Liban, c'est comment ?
Ah ben, je dirais pas que c'est le, mais ben c'est un peu. Bon, déjà, non, il est dans un état économique désastreux, donc il y a du dessous. C'est un peu galère pour maintenant, quoi. Et sinon, par rapport au système de santé, pour l'instant, pour les prochains malades qu'il y aura, tous les hôpitaux publics sont en train de préparer leurs pièces, leurs lits. Tous les équipements, mais avec ce qu'ils ont, parce que pareil, il n'y a pas assez de de respirateurs, il n'y a pas assez de masques, il n'y a pas assez de... Ouais, c'est un peu comme partout, quoi, j'ai l'impression. Et là, il y a un hôpital à Beyrouth qui, pour l'instant... Mais ça, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment vrai. Mais quand on nous dit, si vous êtes malade et que vous avez besoin d'aller à l'hôpital, vous allez à l'hôpital à Beyrouth, le Rafik Hariri. Et c'est là où, pour l'instant, tous les malades vont. Mais ils disent que fin avril, tous les hôpitaux publics vont être prêts pour accueillir les gens malades. En vrai, le Liban, tu sais pas. Tu sais pas ce qui va se passer. C'est galère de comprendre ce pays, l'État. Il y a un État, mais il y en a pas. C'est le bordel, quoi.
C'est-à-dire, il y a un État, mais il y en a
donc,
pas.
Il y a eu pendant plusieurs semaines, il n'y a plus d'État au début de la révolution en octobre. Là. Bon, voilà, il n'y avait plus de ministre. Donc, ils ont mis plusieurs semaines à refaire un État. Et le président, Michel Aoun, il est quand même vieux. Je ne sais pas, ils n'aident pas leur peuple. Quoi. Je veux dire, quand il n'y a pas d'État, ils n'aident pas. Ils prennent pas vraiment de décision ou ils prennent des décisions de merde. C'est quand même un pays très compliqué à comprendre et en même temps, j'essaye de comprendre, mais même depuis 3 ans, c'est compliqué à comprendre.
Quel impact cette crise a-t-elle sur ton imaginaire ?
Ouf ! C'est les débuts de cette crise, ça n'était pas très simple. C'était un peu la déprime, j'avoue, parce que vraiment au début, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Ils avaient dit plus personne ne pouvait sortir. Ils avaient vraiment tout fermé. Donc ça, c'était vraiment le début du confinement. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'avais l'impression que tout était redevenu à la normale. On a le droit de sortir, juste un jour sur deux, c'est les voitures paires et un jour sur deux, c'est les voitures impaires qui ont le droit de bouger. Et le dimanche, personne n'a le droit de sortir, mais sinon, si j'ai envie, j'ai le droit. Ils nous déconseillent de le faire, mais je peux aller à la mer, quoi. On ne le fera pas, mais tu vois, c'était un peu anxiogène, très angoissant, parce que tu entends toutes les nouvelles de France, ça monte, les malades, les morts. Et chez nous, il y a 550 malades, 20 morts. Et il dit, de toute façon, en Iran, en Syrie et au Liban, les chiffres, on ne sait pas vraiment. Donc, cette situation, elle est très bizarre. Tu ne sais pas trop où on en est, quoi. On ne sait pas où on en est, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas quand on pourra retourner en France, si on a envie de retourner en France. Là, l'aéroport, il est fermé. Ils ont encore rallongé la fermeture de l'aéroport. Donc, là, ça va mieux depuis 2 semaines. Mais ce n'est pas très simple. dans la tête que dans la vie en collectif, parce que d'un coup, tu peux plus toucher les gens autour de toi. Tu n'as plus les relations que tu avais avant. Tu n'as plus le droit. Il n'y a personne qui va te surveiller, mais il ne faut pas que tu le fasses. Donc, c'est un peu bizarre.
C'est quoi qui t'inquiète le plus?
Ben, moi, je suis moins inquiète qu'avant. Ben, le début, c'était... je suis arrivée de France. J'avais 2 semaines, donc je ne savais pas si je l'avais ou pas. J'avais peur de contaminer mes proches parce qu'on était ensemble. Enfin, je suis arrivée, on habite en collectif dans une maison, donc on est ensemble, quoi. On est en groupe, on est 8. Donc, il faut faire attention, mais en même temps, tu vis ensemble. Donc, si tu en contamines un, t'en contamines 20 parce qu'on travaille dans la ferme et qu'on est toutes les familles en tout, on est une quarantaine, quoi. Et après, les amis, et c'est pour ça que très vite, on a décidé qu'il n'y avait plus d'amis qui pouvaient venir chez nous, chez aucune des familles qui travaillent à la ferme, plus d'invités, et nous, on n'allait voir personne. Donc ça, on a décidé très vite, donc ça, c'était bien. Pour l'instant, il n'y a aucun malade, mais voilà, moi, ce qui m'angoisse le plus, c'est de contaminer les autres, et surtout que ça arrive dans les camps de réfugiés qui sont à 50 mètres de chez nous. Et là, si ça arrive là-bas, ben c'est un peu catastrophique, quoi. Enfin, c'est complètement catastrophique. Dans la plaine de la Beka, il y a, je ne sais pas combien, mais en tout cas au Liban, il y a 2 millions de réfugiés. Dans la plaine de la Beka, il y a quand même une bonne partie de ces 2 millions. Et c'est des camps de réfugiés, mais il n'y a pas d'hygiène. Enfin, il y a de l'hygiène chez eux, mais enfin, tout peut rentrer. Je veux dire, tu as des milliers de personnes dans des camps. Comment tu fais pour stopper quelque chose? C'est pas possible, quoi. Et puis, il y a des enfants, il y a des centaines et des centaines d'enfants. C'est la galère. Donc ça, c'est l'angoisse la plus forte, je crois.
Et tu sais comment ça se passe dans les camps?
Ben oui, en tout cas, c'est depuis plusieurs semaines, c'est assez compliqué parce que avec la crise économique, les prix ont énormément augmenté. Avant, $1, c'était 1500 lira. Maintenant, c'est 3000. Ça a vraiment augmenté. Et du coup, même le pain, ça coûte super cher. Les légumes, ça coûte cher. Alors qu'avant, les légumes, c'était la chose la moins chère du Liban. Acheter de l'eau, tout ça, ça devient tellement cher que eux, en fait, ils ont faim. Et eux, du coup, ils disent oui, d'accord, on veut bien se confiner, mais comment on mange? On a besoin de travailler. Et du coup, tous les magasins, à part la bouffe, c'est fermé. Il n'y a plus de magasins ouverts à part les supermarchés. Donc, c'est un peu, pour l'instant, je pense que ça va, mais si ça continue trop, trop longtemps, je crois qu'il va y avoir des gros problèmes. J'espère pas, mais bon, les gens, ils sont déjà en détresse maintenant, donc. Mais il y a quand même des ONG qui, depuis le début du confinement, et ils essayent de rechercher des moyens de travailler avec des fermes qui font des dons de légumes pour certains camps, pour d'autres. Enfin voilà, il y a des ONG qui se mettent à chercher des moyens de trouver des façons de les nourrir, quoi. On a semé plein de plants en plus pour distribuer dans les camps. Donc ça, c'est notre façon de partager avec les amis et les camps et tout. Après, les autres ONG, je sais pas trop comment elles bossent, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui se mettent à chercher des moyens. Chacun a envie de mettre son petit truc, quoi. Nous, c'est les graines, c'est les plants.
Tu as l'impression qu'il y a un système de solidarité qui se met en place au Liban, ou est-ce que c'était déjà un peu comme ça que ça fonctionnait entre les gens?
Alors, vu que ça fait quand même très longtemps qu'il y a des réfugiés par rapport à la guerre en Syrie et tout, il y a déjà beaucoup d'ONG qui sont présentes au Liban. Parce qu'il y a aussi des bidonvilles de Libanais, de pauvres, de gens de Libanais qui sont à Beyrouth, dans des camps, quoi. Puis les Palestiniens et les Syriens, bon, il y a vraiment énormément de gens pauvres au Liban. Je trouve que la solidarité, elle est là, mais j'ai l'impression que dans ces pays-là, il y a quand même beaucoup de solidarité. Que ça soit de pays en dehors ou du pays même, je trouve que là, les gens, ils se bougent, quoi.
Et ce qui te réjouit le plus dans cette crise?
Ben, c'est le fait que les gens, ils réfléchissent plus. Et qu'ils ont envie de... Enfin, j'espère qu'ils réfléchissent, mais qu'ils vont faire après. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a plus d'envie de se mettre à... à jardiner, de se mettre à faire des choses qui sont vitales en fait, et pas de devoir toujours aller acheter au magasin. Ce qui me réjouit le plus dans ça, c'est le fait que les gens réfléchissent comment ça va être là dans le futur, et puis de voir que quand même la pollution, il y a un peu moins de pollution et qu'il y a les animaux. Enfin, la nature reprend beaucoup plus vite que je le pensais, quoi. Je trouve qu'il y a quand même des bons points positifs malgré tout.
Vous vivez avec des enfants ?
Ouais. Ouais, il y a beaucoup d'enfants. Mais pareil, les enfants, on essaye qu'ils, tu vois, ils restent entre eux. Ils vont pas aller jouer avec d'autres enfants de famille qui habitent pas avec nous. On essaye que, de toute façon, si on a un qui l'a dans la ferme, tout le monde l'a. Parce qu'on est. Même si on fait attention et qu'on se touche le moins possible et tout, on est ensemble, quand on travaille ensemble, on touche les mêmes choses. Donc, de toute façon, ça c'est depuis le début. Que s'il y en a un qui. C'est pour ça que chacun doit faire attention de son côté.
Du coup, comment ça s'organise? Ils font l'école à la maison? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Il y a combien d'enfants?
Il y a beaucoup d'enfants. Il y a une famille où il y a 7 enfants, une famille où il y en a 5, une famille où il y en a 4, une autre famille où il y en a 4, une autre avec 2, et nous, on en a une. Donc, ça fait beaucoup d'enfants et chaque famille se débrouille comme il peut. Mais en gros, il y a une des familles qui la maman, elle les fait travailler tous les jours. Et ils reçoivent des cours par WhatsApp, ils reçoivent les cours de la maîtresse. Ceux qui peuvent, ils le font. Ceux qui sont motivés, dont les parents ont le temps, ils bossent à la maison. D'autres, non, parce que les parents sont aussi analphabètes, donc ils ne savent pas lire et écrire. Donc, il y a aussi des problèmes par rapport à ça. Tous ceux qui peuvent, ils le font et ils sont motivés. La majorité ne travaille pas à la maison.
Et alors, qu'est-ce qu'ils font de leur journée ?
Ils jouent, mais eux, ça ne leur change pas grand-chose. Eux, ils ont la ferme où ils peuvent jouer. Pour eux, ça ne leur change pas. À part qu'on ne peut pas les prendre dans les bras, on ne peut pas leur faire de bisous ou de câlins comme avant. La relation qu'on avait avant, elle s'est mise en pause. Mais sinon, ça ne change pas. À part qu'on leur dit de faire attention. Pour eux, c'est normal, ça va. Pour l'instant, tout va bien. Mais en tout cas, j'espère qu'on va s'en sortir vite de tout ça. Parce que c'est quand même un peu étrange. Les relations sociales, elles ne sont pas comme d'habitude. Donc c'est un peu... Mais c'est bien, ça fait changer, ça fait réfléchir, ça fait... C'est bien en même temps. Il faut prendre du positif.
Tu vas retourner ramasser des légumes ?
Là, je vais aller retourner ramasser les légumes, mes petites chicorées, faire du mesclun de salade. Qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Et préparer les paniers, les 40 paniers, parce qu'on a 40 paniers prévus pour demain. Donc et en plus, il pleut. Donc le pire, c'est qu'il pleut, donc ça va être un peu plus compliqué. J'aurai fini ce soir à 8 heures, j'espère. On commence tôt et on s'arrête tard. C'est pour ça que je n'ai pas trop le temps.
En tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous raconter un bout de ta vie au Liban.
Bonjour,
tu vois, même lui, il a un masque.
Ouais, je vois. Ciao, Charlotte. Merci.
Ben oui, à bientôt.
Bonne continuation.
Oui, bisous. Ciao.
Bisous. Ciao.
Ciao à toutes et à tous, au plaisir de vous retrouver à l'épisode suivant pour parcourir avec nous le monde que nous habitons et les mondes qui nous habitent. Ciao !